Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le marketing d'influence.
Bonjour.
Et attention, on va aller bien au-delà des simples placements de produits sur Instagram.
Ah oui, largement.
On va parler d'un phénomène qui, en fait, puise ses racines très loin, dans la psychologie de la communication.
Absolument. Et pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, un post sur TikTok peut avoir plus d'impact qu'une campagne de pub à des millions.
Oui.
Il faut accepter une idée un peu étrange. La clé de tout ça, de ce phénomène ultra-moderne, elle se trouve dans une étude menée pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer. Notre discussion, elle s'appuie sur un entretien passionnant avec le chercheur Julien Lecomte. La mission, comprendre comment une théorie de 1940 peut expliquer avec une précision mais bluffante le monde des influenceurs de 2024.
C'est ça.
On va décortiquer les ressorts psychologiques, les risques, les mythes. C'est parti.
Et ce voyage dans le temps, il est vraiment essentiel. Sans ce recul, on passe à côté de l'idée principale. Les réseaux sociaux n'ont rien inventé.
Ils ont juste amplifié ?
Exactement. Ils ont amplifié des dynamiques sociales qui existent depuis toujours.
Alors, commençons par là, justement. On pense tous que les influenceurs, c'est une création pure d'Internet. Mais la source nous catapulte directement, hop, dans les années 40 aux États-Unis. Attendez. Donc si je comprends bien, la théorie qui explique TikTok a été pensée à une époque où la télé n'existait même pas pour le grand public.
C'est ça qui est fou.
C'est assez dingue.
C'est exactement ça. Le concept clé, c'est la théorie du two-step flow of communication.
La communication à deux étages.
Développée par le sociologue Paul Lazarsfeld. Et le contexte, il est crucial, hein. On est en 1940, élection présidentielle américaine.
D'accord.
Et les chercheurs, à l'époque, ils veulent comprendre l'impact des médias de masse, la radio, la presse, sur le vote des gens. Et à l'époque, la vision, elle est très, très simpliste.
C'est l'idée de la seringue hypodermique, c'est ça? Le média injecte un message direct dans le cerveau du public. Genre, la radio dit de voter X, donc je vote X.
Précisément, c'est ça. Sauf que Lazarsfeld et son équipe, ils découvrent que ça marche pas du tout comme ça.
Ah.
La grosse surprise de leur étude, c'est que l'influence principale, bah, elle vient pas directement des médias. Elle est relayée, elle est filtrée, et surtout, elle est validée par des individus, au sein des communautés.
Des gens qu'on connaît.
Oui, ils les appellent les leaders d'opinion.
Des gens du quotidien, en fait. Le collègue qui suit la politique, le cousin passionné d'auto, la voisine qui a les meilleurs conseils de jardinage.
Exactement. Ce sont des personnes qui sont respectées, crédibles, dans leur cercle social. D'où le modèle en deux étages.
Ok, je vois.
Premier étage, les médias de masse, ils diffusent l'info. Mais cette info, elle est ensuite attrapée par un deuxième étage, ces leaders d'opinion.
D'accord.
Et ce sont eux qui vont l'interpréter, la traduire et la transmettre à leurs proches. Et évidemment, le message d'une personne de confiance a infiniment plus de poids.
C'est limpide, mais est-ce que c'est vraiment le même mécanisme aujourd'hui? Le leader d'opinion de 1940, c'était un collègue au bureau, une personne réelle avec un vrai lien.
Oui.
L'influenceur, c'est une relation à distance. C'est parasocial. Est-ce que la confiance, elle n'est pas fondamentalement différente?
C'est une excellente question. Ça pointe vraiment vers le cœur du sujet. La nature du lien a changé, c'est vrai, mais le mécanisme psychologique derrière, lui, il reste le même.
Ah oui.
Ce qui est fascinant, c'est que l'influenceur moderne, il a réussi à recréer, un peu artificiellement, les conditions de cette proximité. Il ne se présente pas comme une star là-haut, inaccessible.
Non, il se présente comme un ami.
Un ami, un grand frère, quelqu'un comme nous. Et c'est ça qui nous amène au deuxième grand concept de la source.
D'accord, on a ce mécanisme de confiance qui a 80 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a été détourné. À l'origine, le leader d'opinion, il filtrait l'info pour son cercle.
Oui.
Aujourd'hui, l'influenceur, il est souvent payé pour la pousser. Comment notre cerveau accepte ce paradoxe? J'imagine que ça va au-delà de la simple expertise.
Bien sûr.
Une pub pour un pneu, elle vante les mérites techniques. Un youtubeur, lui, il va raconter son road trip avec ses pneus, les galères, les bons moments. C'est cette narration qui change tout, non?
Vous mettez le doigt dessus. C'est le passage de l'argumentation à la narration. Et ça, c'est le pouvoir de ce que la source appelle l'influence comparative.
L'influence comparative.
Le principe est simple, hein. On est beaucoup plus influencé par des personnes auxquelles on s'identifie. Des gens qui nous ressemblent ou à qui on aspire à ressembler.
Le fameux « si ça marche pour elle, qui a le même type de peau que moi, alors ça marchera pour moi ». C'est un ressort psychologique ultra puissant.
Et les influenceurs en sont les maîtres. Ils ne vendent pas seulement un produit. Ils vendent un style de vie, une authenticité. Qu'elle soit réelle ou mise en scène d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Ils partagent leurs doutes, leurs échecs, leur quotidien. Et cette construction d'une intimité, même si elle est asymétrique, ça crée un lien d'identification très fort. On fait plus confiance à une marque, on fait confiance à une personne.
Ça me fait penser à cette citation du sociologue Dominique Cardon qui est mentionnée dans l'entretien. La bulle, c'est nous qui la créons.
Oui.
Le vrai filtre, c'est le choix de nos amis, plus que l'algorithme de Facebook. On a tendance à blâmer les algos de nous enfermer, mais en fait, ils ne font que surfer sur notre tendance très humaine à écouter nos semblables.
Parfaitement. Les algorithmes sont des amplificateurs, pas les créateurs du biais.
D'accord.
Ils détectent notre propension naturelle à faire confiance à nos pairs et ils l'exploitent, à une échelle industrielle. Et cette primauté du « qui » sur le « quoi », on la vérifie dans plein de domaines.
Ah oui.
La source cite une étude de 2003 assez parlante. On a présenté une décision politique à des participants. On a découvert que leur adhésion, elle dépendait moins de la mesure elle-même.
Que de la personne qui l'a proposée.
Exactement. Que de l'appartenance politique supposée de celui qui l'a proposée.
Donc si c'est quelqu'un de mon camp qui le dit, c'est une bonne idée. Si c'est du camp d'en face, c'est une mauvaise idée, même si la proposition est la même.
C'est la démonstration parfaite. Les variables sociales, affectives, le lien de confiance, le sentiment d'appartenance, c'est souvent plus déterminant que le contenu rationnel du message. Le marketing d'influence, c'est juste l'application commerciale de ce principe.
Mais cette culture de l'identification, de la comparaison permanente, ça doit avoir un coût. Se mesurer constamment à des versions idéalisées de nos pairs, ça peut pas être sain.
Et on touche au revers de la médaille, là.
La source soulève des inquiétudes assez vives là-dessus.
Oui, l'entretien critique violemment ce qu'il nomme la société du personal branding. L'idée que chaque individu doit se penser, se gérer comme une marque.
J'imagine que cette pression de devoir se forger une marque personnelle parfaite rend l'influence comparative encore plus forte, non? On se compare plus à des pairs réels avec leurs défauts, mais à des influenceurs qui ont, en apparence, parfaitement réussi leur personal branding.
Vous faites un lien très juste. C'est un cercle vicieux.
La compétition devient encore plus rude.
C'est ça. Cette pression de gérer sa réputation en permanence, où chaque faux pas est perçu comme une tare indélébile, ça génère une anxiété énorme. On est dans une culture de la compétition superficielle, basée sur une image lisse, maîtrisée. Et l'analyse de la source, d'ailleurs, elle va très loin dans sa critique.
Oui, c'est un des points les plus surprenants, je trouve. Elle ne se contente pas de dénoncer les images irréalistes. Elle questionne même les campagnes marketing qui se veulent positives.
Celle de la marque Dove, par exemple?
Oui, avec le slogan « Toutes les femmes sont belles ».
Et ça, c'est une remise en question radicale. L'argument, c'est le suivant. En disant « Tout le monde est beau », on maintient l'idée que la beauté, l'apparence physique, c'est la valeur cardinale. C'est le principal terrain sur lequel on doit s'évaluer.
On élargit juste les critères.
Voilà. On ne remet pas en cause le système. La source pose une question bien plus fondamentale. Et si on arrêtait de faire de l'apparence le critère de jugement principal?
Le problème, c'est pas de ne pas se trouver assez beau. Le problème, c'est que l'apparence soit devenue un critère de valeur si central dans nos vies.
C'est exactement ça. La source parle d'une idéologie réduisant nos relations et nos identités à notre emballage corporel. En se focalisant uniquement sur le body positif, on renforce paradoxalement cette idéologie sans la questionner à la racine.
Abordons maintenant quelques idées reçues que l'entretien s'efforce de déconstruire. La première, c'est celle de la dépendance. Est-ce que ce succès du marketing d'influence, c'est la preuve qu'on est tous devenus accros aux réseaux sociaux ?
La source appelle à une grande prudence avec ce mot. Le terme « dépendance » est un terme clinique.
Très fort.
Très fort, oui. Et souvent utilisé de manière abusive pour décrire un usage juste intensif. L'entretien cite une étude belge, l'étude CLIC, qui a mesuré les usages réellement compulsifs, problématiques d'Internet chez les ados. Les résultats y sont éclairants.
On est loin du cliché de la génération zombie, j'imagine.
Très, très loin. Selon cette recherche, ces usages problématiques ne concerneraient que 1,2% des adolescents.
Ah oui, quand même.
Attention, ça ne veut pas dire que le temps d'écran n'est pas un sujet, ou que les plateformes ne sont pas conçues pour être captivantes, bien sûr.
Bien sûr.
Mais ça nous invite à nous méfier des généralisations hâtives sur une génération entièrement accro. D'autant que, comme on l'a vu, le mécanisme d'influence, lui, il est bien plus ancien.
Deuxième idée reçue. Et elle est tenace, celle-là. Devenir influenceur, c'est la voie royale vers l'argent facile.
C'est l'autre grand mythe. La réalité, c'est que le secteur s'est hyper professionnalisé à une vitesse folle. Ceux qui se lancent aujourd'hui en pensant que c'est facile, ils déchantent très vite. Percer, c'est devenu extrêmement difficile. C'est un travail à plein temps. Ça demande des compétences en création, en montage, en marketing, en gestion de communauté.
Il suffit plus de poster quelques photos depuis sa chambre.
Plus du tout. Et surtout, les motivations, elles sont bien plus complexes que le simple appât du gain. Bien sûr, ça existe.
Oui.
Mais la source nous met en garde contre la projection de nos propres interprétations. Il y a la passion pour un sujet, le plaisir de créer, de bâtir une communauté. Et puis, il y a une dimension plus sociale.
C'est ce point sur le désenchantement face au monde du travail qui est particulièrement intéressant.
Oui, c'est une forme de quête d'autonomie pour une génération qui perçoit les parcours traditionnels comme de plus en plus précaires, parfois dénués de sens, avec des hiérarchies très rigides. L'idée de bâtir sa propre audience, sa propre activité, ça devient une voie entrepreneuriale crédible. C'est une réponse à une angoisse, une tentative de reprendre le contrôle sur sa trajectoire. Même si, encore une fois, la réalité, c'est que très peu y arrivent.
C'est moins un choix de facilité qu'une alternative.
Une alternative à un système qui ne fait plus rêver, exactement.
Si on résume, on a un tableau assez complet. Le marketing d'influence, c'est pas une aberration moderne, mais c'est l'industrialisation de mécanismes psychologiques très anciens.
Oui.
Notre confiance en nos pairs, théorisée par Lazarsfeld, et notre besoin d'identification, l'influence comparative.
C'est une excellente synthèse. Les réseaux sociaux ont simplement fourni une plateforme mondiale et des outils d'optimisation à ce two-step flow of communication.
Alors, que retenir de tout ça? On a vu comment cette mécanique de confiance a été mise au service du commerce. On a exploré les risques pour l'estime de soi avec cette pression du personal branding.
Qui alimente une comparaison malsaine.
C'est ça. Et on a touché à cette critique plus profonde de notre société qui survalorise l'apparence.
Et tous ces fils qu'on a tirés, la confiance, la comparaison, la valeur basée sur l'apparence, tout ça, ça nous ramène finalement à des questions bien plus profondes.
Sur nos instincts et le fonctionnement de nos sociétés. C'est là-dessus que la source nous laisse. C'est vrai. Tout ce qu'on a évoqué nous conduit à la pensée finale de l'entretien. Une question presque philosophique, qui met tout en perspective. La voici, pour laisser notre audience y réfléchir. Une civilisation peut-elle aller à l'encontre d'un fonctionnement primaire, évaluant autrui uniquement comme un adversaire dans la lutte pour la reproduction ou comme un partenaire sexuel potentiel? C'est une question vertigineuse.
En effet.
Merci de nous avoir écoutés.